Le scélérier paraissait possédé et illuminé à la fois. On eût dit que maintenant la digue du silence et de la simulation s'était rompue, que son passé revenait non seulement en mots, mais en images, et qu'il éprouvait de nouveau les émotions qu'il avait exaltées autrefois. « Alors, » le taraudait Bernard, « tu avoues que vous avez honoré comme martyr Gérard Segalelli, que vous avez nié toute autorité à l'Église romaine, que depuis le temps de Saint-Sylvestre, tous les prélats de l'Église avaient été des prévaricateurs et des séducteurs, sauf Pierre Dumoron, que les dîmes devaient être payées à vous seuls, les uniques apôtres et pauvres de Christ, que vous parcouriez les villages et séduisiez les gens en criant « Penitentia gite !» que vous vous faisiez passer pour des pénitents, et puis vous vous octroyiez toute licence et toute luxure, toute offense de votre corps et du corps des autres. Parle ! Oui, oui, j'avoue la vraie foi à laquelle j'avais cru, alors de toute mon âme. J'avoue que nous avons abandonné nos vêtements en signe de spoliation, que nous avons renoncé à tous nos biens, tandis que vous, raste chien, vous n'y renoncerez jamais, que depuis lors nous n'avons plus accepté d'argent de personne et n'en avons plus porté sur nous, et nous avons vécu d'aumône, et nous n'avons point gardé de poire pour notre soif. Et lorsqu'on nous accueillait et qu'on dressait la table pour nous, nous mangions et repartions en laissant sur la table les restes du repas. Et vous avez incendié et saccagé pour vous adjuger les biens des bons chrétiens. Et nous avons incendié et saccagé parce que nous avions élu la pauvreté comme loi universelle, et nous avions le droit de nous approprier la richesse illégitime des autres, et nous voulions frapper au cœur la trame d'avidité qui se tissait de paroisse en paroisse. Mais nous n'avons jamais saccagé pour posséder, ni tué pour saccager. Nous tuions pour châtier, pour purifier les impurs à travers le sang. Et Gérard Segalelli avait été une plante divine. Planta Dei pullulans in radice fidei. Notre règle nous venait directement de Dieu, non pas de vous, chien damné, prêcheur de mensonges, qui épandait autour de vous l'odeur du soufre et pas celle de l'encens, chien vil, charogne, putride, buzard, serf de la putain d'Avignon. Alors je croyais que nous étions l'épée du Seigneur, et il fallait pourtant tuer des innocents pour pouvoir tous vous tuer au plus vite. Nous voulions tuer la guerre que vous répandiez avec votre avidité. Pourquoi nous faire des reproches si pour établir la justice et le bonheur, nous avons dû verser un peu de sang, et cela valait bien la peine de teinter de rouge toute l'eau du Carnasco, ce jour-là, à Stavello, car c'était aussi notre sang. Et nous ne nous épargnions pas, car les temps de la prophétie de Dolcino pressaient. Il fallait hâter le cours des événements. Il tremblait des pieds à la tête. Il se passait les mains sur son habit comme s'il voulait les blanchir du sang qu'il évoquait. « Le glouton est redevenu impur. » me dit Guillaume. « Mais c'est cela, la pureté ?» demandai-je horrifié. « Il en existera aussi d'une autre espèce, » dit Guillaume. « Pourtant, quelle qu'elle soit, elle me fait toujours peur. »« Qu'est-ce qui vous effraie le plus dans la pureté ?» demandai-je. « La hâte, » répondit Guillaume. « ça suffit, » disait maintenant Bernard. « Nous te demandions des aveux, non point un appel au massacre. »« D'accord. » Non seulement tu as été hérétique, mais tu l'es encore. Non seulement tu as été assassin, mais tu as encore tué. Alors dis-nous comment tu as tué tes frères dans cette abbaye et pourquoi. Le scélérier se mit à trembler. Il regarda autour de lui comme s'il sortait d'un rêve. Non, dit-il. Je n'ai rien à voir avec les crimes de l'abbaye. J'ai avoué tout ce que j'ai fait. Ne me faites pas avouer ce que je n'ai pas fait. Mais que reste-t-il que tu ne puisses avoir fait? À présent, tu te dis innocent. Ô agnolet, ô parangon de douceur! Vous l'avez entendu, il a eu naguère les mains souillées de sang, et à présent, il est innocent. Sans doute, nous méprenons, nous, Remigio de Varagine est un modèle de vertu, un fils fidèle de l'Église, un ennemi des ennemis de Christ. Il a toujours respecté l'ordre que la main vigilante de l'Église s'est efforcée anxieusement d'imposer aux villages et aux villes, la paix des commerces, les boutiques des artisans, les trésors des églises. Il est innocent. Il n'a rien commis de mal. Dans mes bras, frère Remigio, que je puisse te consoler des accusations que les méchants ont portées contre toi. » Et tandis que Remigio le regardait avec des yeux éperdus, comme si d'un coup il croyait en une absolution finale, Bernard reprit son âpre prestance et s'adressa d'un ton de commandement au capitaine des archers.
« Il me répugne de recourir à des moyens que l'Église a toujours critiqués quand ils sont employés par le bras séculier. Mais il est une loi qui domine et dirige même mes sentiments personnels. Demandez à l'abbé un endroit où l'on puisse préparer les instruments de torture, mais que l'on ne procède pas tout de suite. Qu'il reste pendant 3 jours dans une cellule, mains et pieds dans les fers. Ensuite, on lui montrera les instruments. Seulement. Et le 4e jour que l'on procède. La justice n'agit pas avec précipitation, comme croyaient les pseudo-apôtres, et celle de Dieu a des siècles à sa disposition. Que l'on procède lentement et par degrés. Et surtout, rappelez-vous ce qu'on ne cesse de répéter. Qu'on évite les mutilations et le danger de mort. Une des mesures providentielles que ce procédé concède à l'impie, c'est précisément que la mort soit savourée et attendue, mais ne vienne pas avant que les aveux aient été complets et volontaires et purificateurs. »
Les archers se penchèrent pour relever le scélérier, mais celui-ci s'arc-bouta et fit résistance, indiquant qu'il voulait parler. Comme il en obtint l'autorisation, il parla, mais ses paroles sortaient péniblement de sa bouche, et son discours était comme le bredouillement d'un ivrogne et avait quelque chose d'obscène. Ce n'est que peu à peu, en parlant, qu'il retrouva cette espèce de sauvage énergie qui avait animé ses premiers aveux.
« Non, monseigneur, la torture, non. Je suis un homme vil. J'ai trahi alors, j'ai renié pendant 11 années dans ce monastère ma foi de naguère, en percevant les dîmes des vignerons et des paysans, en faisant l'inspection des étables et des sous pour qu'elles fussent florissantes, et gonflasse d'or l'escarcelle de l'abbé. J'ai collaboré de bon gré à l'administration de cette officine de l'Antéchrist, et je m'en trouvais bien. J'avais oublié les jours de la révolte. Je me délectais au plaisir de la gueule et à d'autres encore. Je suis un lâche, moi. J'ai vendu aujourd'hui mes anciens frères de Bologne. Autrefois, j'ai vendu Dolcino. Et c'est en lâche que, déguisé comme un des hommes de la croisade, j'ai assisté à la capture de Dolcino et de Marguerite quand ils les emmenèrent le samedi saint dans le château du Bugello. Je rôdais autour de Versailles pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'arriva la lettre du pape Clément, porteuse de la condamnation. Et je vis Marguerite découpée en morceaux sous les yeux de Dolcino, et elle criait, toute massacrée qu'elle était, pauvre corps qu'une nuit j'avais touché, moi aussi. Et tandis que son cadavre déchiré brûlait, ils furent sur Dolcino et lui arrachèrent le nez et les testicules avec des tenailles chauffées à blanc. Et ce n'est pas vrai, comme on l'a dit par la suite, qu'il ne poussa pas même un gémissement. Dolcino était grand et fort. Il avait une longue barbe de diable et des cheveux rouges qui tombaient en boucle sur ses épaules. Il était beau et puissant lorsqu'il nous guidait avec son chapeau à large bord et la plume et son épée sainte sur sa robe brune. Dolcino faisait peur aux hommes et faisait crier de plaisir les femmes. Mais quand ils le torturèrent, il criait de douleur lui aussi, comme une femme, comme un veau. Il perdait du sang par toutes ses blessures, tandis qu'on le tirait d'un endroit à un autre, et il continuait de le blesser légèrement pour montrer combien longtemps pouvait vivre un émissaire du démon, et lui voulait mourir. Il demandait qu'on l'achevât, mais il mourut trop tard à son arrivée sur le bûcher, et ce n'était plus qu'un tas de chair sanguinolente. Moi, je le suivais, et je me félicitais d'avoir échappé à cette épreuve. J'étais fier de mon astuce. Et cette vermine de Salvatore se pressait à mes côtés et me disait « Comme nous avons bien fait, frère Remigio, de nous comporter en personne avisée, il n'y a rien de pire que la torture. J'aurais abjuré 1000 religions ce jour-là. » Et il y a des années, tant d'années, que je me dis « Comme tu fus lâche, et comme tu fus heureux d'être lâche. » Et cependant, je ne perdais jamais l'espoir de pouvoir me montrer à moi-même que je n'étais pas aussi vil que ça. « Aujourd'hui, tu m'as donné cette force, Seigneur Bernard.
Tu as été pour moi ce que les empereurs païens ont été pour les plus lâches des martyrs. Tu m'as donné le courage d'avouer ce à quoi j'ai cru de toute mon âme, tandis que mon corps s'en éloignait. Pourtant, n'exige pas trop de courage de moi, pas plus que ne peut supporter ma carcasse mortelle. La torture, non. Je dirai tout ce que tu veux. Mieux vaut le bûcher tout de suite. On y meurt étouffé avant de brûler. La torture comme à Dolcino, non. Tu veux un cadavre, et pour l'avoir, tu as besoin que je prenne sur moi d'autres crimes, d'autres cadavres. Cadavre, je le serai bientôt dans tous les cas. Et donc je te donne ce que tu demandes. J'ai tué Adelme d'Otrante par haine de sa jeunesse et de son habileté à se jouer de monstres comme moi, vieux, gros, petit et ignorant. J'ai tué Venantius de Salvemec parce qu'il était trop savant et lisait des livres que je ne comprenais pas. J'ai tué Béranger d'Arundel par haine de sa bibliothèque, moi qui ai fait théologie en bâtonnant les curés trop gras. J'ai tué Séverin de Sant'Emorano. Pourquoi ? Parce qu'il collectionnait les herbes, moi qui ai été sur le mont Rebello, où les herbes on les mangeait sans s'interroger sur leurs vertus. En vérité, je pourrais oxyre les autres aussi, y compris notre abbé. Avec le pape ou avec l'Empire, il fait toujours partie de mes ennemis, et je l'ai toujours haï, même quand il me donnait à manger, parce que je lui donnais à manger. Cela te suffit ? Ah non ! Tu veux savoir aussi comment j'ai oxy tout ce beau monde ? Mais je les ai tués, voyons. En évoquant les puissances infernales, avec l'aide de 1000 légions que j'obtins de commander grâce à l'art que m'a enseigné Salvator. Pour tuer quelqu'un, il n'est pas nécessaire de frapper. Le diable le fait pour vous, si vous savez commander au diable. Il regardait l'assistance d'un air complice, en riant. Mais c'était désormais le rire d'un fol, même si, comme le fit observer après Guillaume, ce fol avait eu l'adresse d'entraîner Salvator dans sa propre ruine pour se venger de sa délation.
« Et comment pouvais-tu commander au diable ?» poursuivait Bernard, qui prenait ce délire pour légitimes aveux.
« Tu le sais aussi bien que moi. On n'entretient pas commerce pendant tant d'années avec les possédés du démon, sans se mettre dans leur peau. Tu le sais aussi bien que moi, égorgeur d'apôtres. Tu prends un chat noir, n'est-ce pas ? Qui n'est pas un seul poil blanc, et tu le sais bien. Et tu lui attaches les quatre pattes. Après quoi, tu l'emportes à minuit à une croisée de chemin et tu cries ensuite à gorge déployée « Ô grand Lucifer, empereur de l'enfer, je te prends et je t'introduis dans le corps de mon ennemi, ainsi qu'à présent je tiens prisonnier ce chat. » Et si tu mènes mon ennemi à la mort, le lendemain, à la minuit, dans ce même lieu, je t'offrirai ce chat en sacrifice, et tu feras tout ce que je te commande, en vertu des pouvoirs de magie que j'exerce maintenant, selon le livre occulte de Saint Cyprien, au nom de tous les chefs des plus grandes légions de l'enfer, Adralmec, Alastor et Azazel, que je prie à présent avec tous leurs frères. » Sa lèvre tremblait. Ses yeux semblaient sortis de leurs orbites, et il commença à prier, ou plutôt on eût dit qu'il priait, mais il élevait ses implorations vers tous les barons des légions infernales. « Abigor, pecca pro nobis, Amon, miserere nobis, Samael, liberanos abono, Belial eleison, focalor in corruptionem meam intende, Aborim damnamus dominum, Zaebos anum meum aperies. Leonard, aspergeme spermate tuo et inquinabor. Suffit, suffit !» hurlaient les présents en se signant. Et « Ô Seigneur, pardonne-nous tous !»
Le célérier se taisait maintenant. Une fois prononcés les noms de tous ces diables, il tomba face contre terre en bavant de la salive blanchâtre qui coulait de sa bouche tordue et de ses dents qui grinçaient. Ses mains, encore que meurtries par les chaînes, s'ouvraient et se serraient convulsivement. Ses pieds ruaient dans l'air par à coups irréguliers. Comme il s'aperçut qu'un tremblement d'horreur me prenait, Guillaume posa sa main sur ma tête, m'empoigna presque à la nuque en la serrant et me faisant recouvrir mon calme. « Apprends, » me dit-il. Sous la torture ou menacé de torture, un homme dit non seulement ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'il aurait voulu faire, même s'il ne le savait pas. Remigio veut maintenant la mort de toute son âme. Les archers emmenèrent le cellérier encore en proie à des convulsions. Bernard rassembla ses parchemins, puis il fixa les assistants, immobiles et remplis d'un grand trouble.
L'interrogatoire est terminé. Le prévenu qui s'est reconnu coupable sera conduit en Avignon, où aura lieu le procès définitif, pour sauvegarde scrupuleuse de la vérité et de la justice, et seulement après ce procès régulier, il sera brûlé. Celui-là, à bon, il ne vous appartient plus, ni à moi d'ailleurs, qui n'ai été que l'humble instrument de la vérité. L'instrument de la justice se trouve en un autre lieu. Les pasteurs ont fait leur devoir. Maintenant au chien, qu'il sépare la brebis galeuse du troupeau et la purifie avec le feu. Le misérable épisode qui a vu cet homme coupable de tant de crimes atroces est conclu. À présent, que l'abbaye vive en paix. Mais le monde... »
Et là, il haussa le ton et s'adressa au groupe des légats.
« Le monde n'a pas encore trouvé la paix. Le monde est déchiré par l'hérésie, qui trouve refuge jusque dans les salles des palais impériaux. Que mes frères se souviennent de ceci. Un singulum diaboli lit les pervers acolytes de Dolcino au maître honoré du chapitre de Pérouse. Ne l'oublions pas, aux yeux de Dieu, les divagations de ce misérable que nous venons de remettre à la justice ne diffèrent aucunement de celles des maîtres qui banquettent à la table de l'Allemand excommunié de Bavière. La source scélérate des hérétiques jaillit des nombreuses prédications, même honorées, encore impunies. Dure passion et humble calvaire pour celui qui a été appelé par Dieu comme ma personne pécheresse, afin de repérer le serpent de l'hérésie où qu'il se love. Mais dans l'accomplissement de cette œuvre sainte, on apprend que l'hérétique n'est pas seulement celui qui pratique l'hérésie à découvert. Les partisans de l'hérésie peuvent se reconnaître à travers 5 indices probants. Primo, ceux qui viennent en visite incognito pour les voir, tandis qu'ils sont gardés en prison. Secondo, ceux qui pleurent leur capture et ont été leurs amis intimes dans la vie. Il est difficile, en effet, que celui qui fréquente longtemps un hérétique ne sache rien de son activité. Tertio, ceux qui soutiennent que les hérétiques ont été condamnés injustement, quand bien même leur faute a été démontrée. Quarto, les gens regardant d'un mauvais œil et critiquant ceux qui poursuivent les hérétiques et prêchent avec succès contre eux. Et on peut le déduire à leurs yeux, à leur nez, à l'expression qu'ils cherchent à cacher, montrant par là leur haine de ceux pour lesquels ils éprouvent de l'amertume et leur amour pour ceux dont le malheur les affecte tant. Cinquième signe, enfin, le fait qu'on recueille les cendres des hérétiques brûlés et qu'on en fasse un objet de vénération. Mais personnellement, j'attribue une très grande importance aussi à un sixième signe, et je considère comme manifestement amis des hérétiques, ceux dont les livres, même s'ils n'offensent pas ouvertement l'orthodoxie, ont offert aux hérétiques les prémices de leur argumentation perverse, disait-il. Et il regardait Hubertin.
La légation franciscaine tout entière entendit fort bien à quoi Bernard faisait allusion. Dès lors, la rencontre avait échoué. Personne ne se serait plus enhardi à reprendre la discussion de la matinée, sachant que chaque mot eût été écouté en pensant au dernier et malheureux événement. Si Bernard avait été invité par le pape pour empêcher une recomposition entre les deux groupes, il avait réussi.